Décryptage. Clotilde Dumais.
Le Vietnam, l'Indonésie, puis Singapour. Le président français est en Asie du Sud-Est cette semaine. Trois visites d'État et une tournée qui a pour objectif, d'après l'Élysée, de consolider la stratégie indo-pacifique de la France. Alors quelle est cette stratégie établie par Emmanuel Macron ? Est-elle efficace face aux États-Unis et à la Chine ? Que peuvent s'apporter mutuellement la France et les pays de la région ? On en parle ce soir dans Décryptage. Et j'accueille en studio David Camerou, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur honoraire au CERI, le centre de recherche internationale de Sciences Po. Et puis nous sommes également en ligne avec Jean-François Dimeglio, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Institut de recherche Asia Centre. Alors la stratégie indo-pacifique de la France, eh bien Emmanuel Macron l'a évoquée dès 2018, au début de son premier mandat. Voici ce qu'il en disait à l'époque, depuis la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, c'était juste après un passage en Australie.
Je crois à l'axe indo-pacifique. Je crois à cette stratégie nouvelle que nous devons porter et qui doit se trouver au cœur de notre ambition collective. Et c'est d'abord une ambition géopolitique. Il y a un axe, Paris, New Delhi, Canberra, mais cet axe-là se prolonge de Papeete à Nouméa. C'est celui qui nous permettra de construire sur le plan géopolitique la neutralité de cet espace indo-pacifique. C'est celui qui, de la Corne de l'Afrique aux Amériques, nous permettra de participer avec nos alliés à ces grands équilibres et d'assurer la liberté de circulation dans les mers, la liberté de circulation dans les airs et les équilibres indispensables à cette région du globe.
Voilà, Emmanuel Macron qui parle donc d'équilibre, qui est d'ailleurs toujours sur cette même ligne à peu près au cours de sa tournée actuellement. En quoi consiste précisément cette stratégie, David Camerou ? C'est une sorte de troisième voie proposée finalement entre les États-Unis et la Chine ?
Ça est devenu de plus en plus une troisième voie depuis l'arrivée de Donald Trump, en fait la deuxième mission de Donald Trump. Parce que cette administration américaine ne souhaite pas forcément une présence française et européenne très forte dans l'Indo-Pacifique. Ils souhaitent que les Européens s'en occupent plus de l'Europe. Et très récemment, il y a eu une petite chose qui a passé inaperçu, c'est que les Britanniques envoient leur flotte avec le porte-avions Elizabeth II dans l'Indo-Pacifique, dans l'océan Indien et ensuite l'océan Pacifique. Et les Américains ont répondu, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Vous n'avez pas d'autres priorités. Donc, je crois que ce qui a changé, c'est l'aspect peut-être plus politique, plus diplomatique, plus économique dans la stratégie française pour l'Indo-Pacifique. Que l'aspect de la France puissance résident dans le Pacifique, l'aspect Pacifique Sud et l'océan Indien s'est un peu moins minimisé pendant ce tournée et on a insisté beaucoup plus sur l'aspect économique et donc les investissements, les échanges et également sur l'aspect indirectement sécuritaire avec la vente des armements.
Alors, on va revenir effectivement sur ces deux aspects. Jean-François Dimeglio, est-ce que effectivement cette stratégie d'équilibre de troisième voie, est-ce qu'elle est plus que jamais pertinente depuis le retour de Donald Trump ? Et aussi, est-ce qu'elle peut parler aux pays d'Asie du Sud-Est, puisqu'on sait quand même que la stratégie de non-alignement, c'est un petit peu la stratégie du Vietnam. Hein, on parle souvent de la démocratie du bambou. Voilà, est-ce que donc la stratégie française peut parler précisément à ces pays ?
Déjà, quand on parle d'Indo-Pacifique, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une démarche volontariste. Nulle part sur une carte de géographie, à aucun moment, je pense, dans les études qu'on a pu faire, peut-être jusqu'à une période très récente, on a appris qu'existait quelque chose comme l'Indo-Pacifique. On est tenté de dire l'Indo-Pacifique, à la fois ça existe et ça n'existe pas. Mais si ça existe, ça ne peut exister que par la volonté des chefs d'État, des chancelleries, des accords qui peuvent exister entre différents pays, et puisque ça n'existe qu'à travers ça, chacun a son Indo-Pacifique. Vous avez parlé effectivement de la possibilité d'être sur une route de collision, en quelque sorte, avec l'interprétation américaine. C'est surtout que c'est un puzzle qui ne s'assemble pas. Pour les États-Unis, effectivement, il y a le souvenir d'une présence très forte. On peut s'interroger aujourd'hui sur ce que veut Donald Trump dans la région. Peut-être qu'il ne veut pas d'intrus, mais on ne sait pas non plus si son engagement à lui doit être très fort. L'Indo-Pacifique de la France est un Indo-Pacifique qui n'est pas, comme celui de Donald Trump, en opposition frontale avec la Chine. Et c'est un Indo-Pacifique, comme l'a rappelé David, qui s'attache au territoire français, donc c'est-à-dire le Pacifique Sud. Mais pas que. Il y a aussi l'Inde. C'est important, pas dans ce voyage naturellement, mais c'est important parce que l'Inde est le premier client d'équipements militaires français. On rappelle les Rafales, bien sûr. L'Indo-Pacifique, pour d'autres, ce sera peut-être l'Asie du Nord-Est, le Japon, qui fait partie avec les États-Unis d'une organisation qui s'appelle le Quad, avec l'Australie, l'Inde et les États-Unis. Bah, là, on est beaucoup moins présent. On a une capacité de projection et justement, on arrive à ce que ça veut dire aujourd'hui que je voyage en Asie Sud-Est, le besoin de complémentarité, le besoin de coopération avec des pays qui, eux, sont là. Et pour répondre, pour finir à votre question, qu'est-ce que ça veut dire pour ces pays-là? Bah, ils nous reprochent parfois, même si on est présent en Indo-Pacifique, de regarder à l'envers, de regarder la carte à l'envers. Et ils nous disent « Non, l'Indo-Pacifique, c'est nous. Donc, écoutez ce qu'on a à vous dire. » Donc, ce voyage, c'est aussi un voyage qui est destiné à recoller les morceaux, en quelque sorte. Moi, j'étais à une session de l'IHEDN où on invite des représentants, donc l'Institut des études de défense nationale, où on invite des représentants des pays de l'Indo-Pacifique. Et ce qu'ils nous disent, mais c'est nous, nous avons notre conception de l'Indo-Pacifique. Donc, il faut bien l'accorder avec la nôtre, si vous voulez en parler.
Alors, ce qui, parmi les pays en tout cas importants dans cette région de l'Indo-Pacifique, il y a notamment le Vietnam, très courtisé hein, quand même ces derniers temps par les dirigeants justement des grandes puissances. Joe Biden y est allé, Vladimir Poutine y est allé, Xi Jinping y est allé assez récemment. Hein, le président chinois, lui aussi, a réalisé une tournée en Asie du Sud-Est le mois dernier. Je voudrais qu'on écoute justement comment la relation entre Pékin et Hanoï a été analysée à ce moment-là sur RFI par le spécialiste de la Chine contemporaine Emmanuel Véron.
Le commerce sino-vietnamien a progressé de plus de 15% sur l'année écoulée 2024. On est aujourd'hui sur un commerce bilatéral qui est à peu près à 200-250 milliards de dollars, ce qui est considérable à l'échelle du sud-est asiatique, ce qui montre bien l'intérêt commercial, technologique, industriel de la Chine d'avoir notamment au lendemain de la crise des subprimes 2007-8-9 de relocaliser des chaînes textiles et d'autres secteurs industriels au Vietnam et ailleurs en Asie du Sud-Est. Bref, on a bien cette confirmation de cette intégration économique et d'ailleurs une bonne partie des marchés consolidés, dont les États-Unis mais aussi l'Europe, se sont rapprochés ces dernières années du Vietnam, bien parce que l'économie est plus performante, les infrastructures sont meilleures, les logistiques sont renforcées. On a effectivement un Vietnam qui s'est intégré à la mondialisation, notamment par le fait des capacités chinoises depuis 10 à 15 ans.
Voilà, un Vietnam courtisé, intégré dans la mondialisation, David Camroux. Pourquoi donc est-ce qu'il aurait intérêt à se rapprocher d'un pays comme la France ?
Oui, déjà, la France et l'Europe, pour, et le code de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne qui date il y a quelques années, est très important pour les Vietnamiens, parce que c'est justement une façon de se diversifier de cette relation étroite avec la Chine, qui est le premier partenaire commercial, mais également garder une certaine distance avec les États-Unis. Donc, les Vietnamiens ont actuellement un gros problème avec les États-Unis. Donald Trump a imposé des taxes douanières de l'ordre de 46% sur le Vietnam, parce qu'il y a un déficit commercial qui a multiplié par 10 de ces dernières années. Ça a passé de 10 milliards à 110 milliards. Et donc, le Vietnam est sur la sellette, en fait, avec les Américains. Donc, ils cherchent voilà, la parade avec les partenaires, avec la diplomatie de bambou, aussi cette espèce de non-alignement. Les pays de l'Asie du Sud-Est, ce qu'ils souhaitent, c'est de ne pas choisir entre la Chine et les États-Unis. Et les Américains, ils ont la maladresse de toujours pousser ces pays, tous ces alliés, même ses alliés, a fait ce choix. Et ces dirigeants de ces pays ne souhaitent pas faire ce genre de choix. Donc, le fait qu'il y ait une sorte de troisième larron, qu'il y ait une troisième possibilité, une troisième voie, qui est l'Europe, et même d'autres, c'est important pour les dirigeants de ces pays.
Et pour la France, Jean-François Di Meglio, pourquoi elle a intérêt aussi à se rapprocher d'un pays comme le Vietnam ?
Vous savez, quand on dit France et Vietnam, ça rappelle quand même des choses. Et quand vous dites se rapprocher, vous dites bien qu'on s'est éloigné, en fait. La France et le Vietnam, bon, ça s'est, on peut dire, mal terminé en 1954, mais il y a une présence française historique au Vietnam.
C'est la première visite d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, au Vietnam.
Oui. Si le Vietnam est en partie un pays catholique, c'est bien parce que le Vietnam a été, pendant très longtemps, effectivement, dans le giron français. Ce qui s'est passé après la réunification du Vietnam en 1975, c'est que, précisément, en capitalisant sur l'hostilité qui demeurait entre la France et le Vietnam, d'autres intervenants ont pris des positions. Les États-Unis, très curieusement, l'Australie, et David le sait bien, et en fait la France, avec tous les efforts qu'elle fait au Vietnam, doit rattraper un retard improbable, mais il est là. Et donc le choix du Vietnam, c'est effectivement rattraper ce retard, parce que la France a toujours l'impression que le Vietnam a une relation privilégiée avec la France. C'est faux, donc il faut rattraper ça. On le rattrape effectivement avec cette politique du troisième larron, comme on vient de le dire.
Est-ce qu'on le rattrape surtout sur le plan économique et commercial en premier lieu?
C'est encore assez difficile avec le Vietnam. Mais ce qui vient d'être rappelé est important, c'est que le Vietnam souffre doublement de la politique américaine. D'abord parce que ce que rappelait Emmanuel Véron, l'augmentation des relations avec la Chine, c'est d'abord parce que la Chine sous-traite au Vietnam naturellement, mais surtout que la Chine a fait de l'ASEAN désormais son premier partenaire commercial. On dit souvent l'Europe où les États-Unis sont les plus gros marchés de la Chine, c'est vrai. Mais là, on ne compte que les exportations chinoises vers ces destinations. Quand on regarde l'ASEAN, les importations et les exportations cumulées en font le premier partenaire de la Chine. Et les exportations de l'ASEAN vers la Chine, c'est principalement des retraitements de produits chinois qui font un séjour dans les pays de l'ASEAN, le Vietnam en particulier, pour repartir dans d'autres parties du monde. Donc il y a une intégration très forte, c'est ce qu'on appelle le Chine plus 1, et ce qu'on appelle aussi une forme de rééquilibrage du commerce de la Chine sur sa région, au cas où la déconnexion s'aggraverait du fait de la politique américaine.
Donc pas évident effectivement de trouver une place sur le plan commercial. Qu'est-ce qu'il en est sur le plan de la défense, sur le plan militaire? David Cameron, Emmanuel Macron est arrivé en Indonésie maintenant, et là effectivement c'est un partenaire primordial pour la France, l'Indonésie.
Oui, on peut remercier un peu le président Poutine pour cet état des faits, parce que la Russie maintenant est devenue un partenaire en termes militaires infréquentable.
Oui, parce que la Russie, initialement, quand même, exportait massivement des armes dans la région.
À la fois vers le Vietnam et vers l'Indonésie. Le Vietnam souhaite maintenant acheter des F-16 américains. L'Indonésie, qui est quand même un pays fondateur du mouvement des non-alignés, on oublie souvent la conférence de Bandung, la conférence afro-asiatique de 1955. Donc cette politique de non-alignement est très importante pour l'Indonésie, qui ne souhaite pas justement être dépendant des États-Unis. Donc ils préfèrent avoir un partenaire comme la France pour les Rafales que frapper à la porte de Washington.
Et puis on a vu aussi que l'Indonésie allait peut-être collaborer avec la France sur des sujets diplomatiques, géopolitiques étrangers, notamment à Gaza, où on s'engage potentiellement
l'Indonésie, historiquement, a toujours joué un rôle sur la scène internationale, mais on oublie souvent, parce que c'est souvent très discret. On parle du premier pays à majorité musulmane du monde. Alors, ce qui était discuté à Jakarta entre le président Macron et le président Prabowo Subianto, c'est justement lors de cette conférence très importante des Nations Unies du 17 au 20 juin, l'Indonésie va pousser en fait pour cette solution des États, et en contrepartie, ils vont reconnaître l'Israël. De toute façon, ils sont obligés de reconnaître l'Israël parce que pour faire membre de l'OCDE, donc ils sont candidats, il faut faire cette reconnaissance.
Jean-François Di Meglio, Emmanuel Macron va terminer sa tournée à Singapour. Il va prononcer un discours au dialogue Shangri-La, qui est un forum justement sur la défense, la sécurité. Là aussi, ce sera un moment important, peut-être le point d'orgue même de cette visite du président français.
Oui, c'est absolument le point d'orgue. Il était important, effectivement, de raccrocher les wagons, si j'ose dire, avec l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est a été, avant la grande crise économique de 97-98, la principale destination de la diplomatie française en Asie. Et puis, tout ça s'est dilué au profit de la Chine, on va dire. Et donc, Vietnam, Indonésie, Singapour, c'est le retour de la France sur cette scène. Mais, comme vous le dites, le dialogue Shangri-La, c'est le point d'orgue parce que c'est la justification, je dirais, de ce voyage, même si les autres étapes sont naturellement très importantes. Parce que c'est le discours stratégique, c'est une position éminente qui est donnée à Emmanuel Macron, puisque c'est le premier chef d'État européen, membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui va s'adresser comme invité d'honneur, c'est-à-dire qu'il va ouvrir ce dialogue qui dure 5 demi-journées, en fait, et donc il va prononcer un discours qui va rappeler la politique indo-pacifique de la France et qui va rappeler l'importance de cette région pour la France, mais aussi la vision de la France pour cette région, qui est surtout une vision de complémentarité et de souhait de coopération, tout en rappelant ce qui était cité, bien sûr, tout à fait au début de cette émission, les priorité de la France, c'est-à-dire la liberté de circulation sur les mers et dans les airs. C'est pas anodin, parce qu'à Singapour, on est à l'entrée de cette mer de Chine du Sud, qui est disputée entre plusieurs pays, mais surtout dont la Chine souhaite faire une sorte de Mare Nostrum en contrôlant tout ce qui s'y passe. Et si elle contrôle tout ce qui s'y passe, ça pose un certain nombre de problèmes pour l'approvisionnement des pays d'Asie du Nord-Est. Nos bateaux naviguent régulièrement dans cette mer de Chine du Sud, et c'est ce que va rappeler probablement le président Macron, comme chacun des orateurs précédents, les années précédentes au dialogue Shangri-La l'a fait.
David Camou, ça veut dire quand même que cette prise de parole au dialogue Shangri-La, ça montre que la France, malgré effectivement les retards qu'on a pu évoquer, reste sans doute la voie la plus puissante, la voie européenne la plus puissante dans la région.
Je pense que c'est le cas, parce que même les Britanniques se sont retirés. Et aussi, le forum de Shangri-La, c'est souvent comme dans d'autres sommets de ce genre, d'autres forums de ce genre, ce qui se passe en fait autour, qui est très important. Il est accompagné par son ministre des forces armées, des armées, le ministre de la Défense français, qui va discuter avec ses collègues, y compris par exemple avec ses collègues australiens, pour justement rattraper après AUKUS pour...
L'Australie, oui, pour rappeler, voilà, il y a quand même eu effectivement ce problème sur le contrat des sous-marins, c'était en 2021, qui a un petit peu quand même cassé finalement peut-être cette dynamique.
Oui, parce que en fait, le président Macron a justement compter sur l'Australie comme une des piliers de cette stratégie française. Donc maintenant, il rattrape avec l'Indonésie, mais il y a quand même un effort pour recoller un peu les morceaux avec l'Australie, et peut-être éventuellement que les Australiens vont enfin de compte acheter les sous-marins français, parce que les Américains peut-être ne seront pas en mesure de les fournir ce qu'ils ont été promis. Et ça, c'est encore une facteur lié justement au président Trump, qui est devenu tellement imprévisible et chaotique que quand la France, en fait, les Européens se disent « nous sommes fiables, vous pouvez compter sur nous », c'est un sens dans le
Donc
monde.
Donc c'est une façon effectivement pour l'Europe aussi d'avancer dans cette région à travers la France.
À travers la France, il y a par exemple en négociation actuellement la signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et quelque chose qui s'appelle le CPTPP. Bon, c'est un accord de libre-échange entre 11 pays de l'Asie-Pacifique. Donc, si on met ces deux blocs ensemble, on arrive à quelque chose de très conséquent. Et ça, c'est aussi une façon de faire face pour les deux parties à justement cet États-Unis qui est devenu imprévisible.
Merci beaucoup, David Camerou, d'avoir participé à ce décryptage. Je rappelle que vous êtes chercheur honoraire au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Et puis merci à vous, Jean-François Dimeglio, en ligne avec nous, président de l'Institut de Recherche Asia Centre. Fabrice Viollet était à la réalisation ce soir. Merci au service documentation et à la Sonothèque de RFI, et puis à Éléonore Krenik pour la cellule invitée. Je vous rappelle que ce décryptage est à réécouter en podcast sur le site internet ou bien l'application Pure Radio de RFI.